Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, bonjour, on va commencer. Et donc, je vais faire comme d'habitude un rappel des étapes précédentes pour ceux qui les ont ratées. Donc au cours des deux premières séances. La dernière séance, je n'aurai plus rien à dire qu'à rappeler les 11 premières, donc ça sera tout bénef. Mais au cours des deux premières séances, donc j'ai insisté sur deux notions, celle de robustesse, bien entendu, et celle d'adaptabilité, au cours du développement et au cours de l'évolution. Et ce que je vous ai rappelé, c'est que ces deux notions qui étaient importantes étaient en apparence contradictoires. Alors si quelque chose est trop robuste, il va avoir du mal à évoluer, en tout cas à changer. Donc, afin de surmonter, au moins essayer de surmonter cette contradiction, j'ai fait appel à des mécanismes qui, au cours du développement, peuvent en fait introduire, en cas de besoin, du flou dans le développement. Et j'ai montré que donc cette robustesse était forte, mais qu'elle restait modulable. Et en particulier, je vous ai montré comment un défi environnemental, un stress au cours du développement, ou au cours de, oui, au cours du développement essentiellement, peut par le biais de ce qu'on appelle les protéines de heat shock, dévoiler d'une certaine façon, révéler à partir d'un même génotype, c'est ça qui est important, le génotype ne change pas, mais on peut révéler des phénotypes sous-jacents, c'est-à-dire des phénotypes qui sont toujours possibles, mais qui ne sont pas les phénotypes principaux que l'on peut observer au cours du développement. Donc, rappelez ces mouches effrayantes que je vous ai dessinées. Que d'ailleurs je dessine parce que ça me permet de mettre les diapositives sur le site sans avoir besoin sans encourir les foudres du droit de reproduction. Donc c'est assez pratique. Donc ce que je dis, c'est que quand on modifie, alors ça c'était le schéma des diapositives que je vous ai montré à la première leçon, c'est-à-dire que normalement dans un centre attractif de ce genre, si je déplace, je reviens à l'équilibre. Mais je peux toujours éventuellement sortir de cet équilibre, soit partir dans une zone instable, à ce moment-là, bon, c'est terminé, je ne survis pas ni au développement ni à l'évolution, mais je peux retomber dans d'autres attracteurs avec des phénomènes de bifurcation possibles, c'est-à-dire passer en C ou passer en D, et ensuite donc avoir changé de morphologie, d'une certaine façon. Donc c'est un petit peu ce à quoi servent ces protéines de heat shock. Et cette discussion m'a amené à vous rappeler qu'il y a des parts respectives de génétique et d'épigénétique dans ces phénomènes, qu'il y a des sélections de type génétique et épigénétique, et j'ai essayé de discuter comment on peut passer d'un mode à l'autre de transmission, c'est-à-dire comment on peut transmettre des traits épigénétiques. J'ai invoqué un concept un peu magique, je dois bien le dire, sur lequel je ne sais pas très bien ce qu'il faut mettre aujourd'hui, vous l'avez compris, d'hérédité maternelle. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette direction pour essayer de comprendre ce qui se cache devant ce qu'on appelle, après Waddington, le phénomène d'assimilation génétique. Et puis ensuite, je suis passé la semaine dernière à l'origine des eucaryotes. Alors, il y a la théorie des symbiontes. Alors, vous voyez que cette théorie des symbiontes, je vous rappelle, c'est que les eucaryotes seraient dérivés de la fusion, de l'endocytose, une symbiose, entre des archées, qui sont des types de bactéries assez proches de nous, des eucaryotes, je veux dire, et puis qui auraient capturé les bactéries, à moins que ce ne soit le contraire. Hein. Avec ce qui s'est suivi, c'est-à-dire que les génomes des mitochondries se sont transmis au niveau du noyau, c'est-à-dire que c'est le noyau qui prend pratiquement en charge toute l'activité de construction d'une mitochondrie, la mitochondrie ayant gardé environ 13 gènes pour faire des choses qui lui sont spécifiques. Et quand ce sont des cyanobactéries qui ont été capturées par les archées, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les chloroplastes qui se développent. Et le chloroplaste, eux aussi, ont envoyé une partie de leur génome au noyau, ce fait qu'aujourd'hui, un chloroplaste, qui est une ancienne cyanobactérie, devient tout à fait dépendant de la cellule pour pouvoir se développer. Donc, je vous ai rappelé ça. Et évidemment, je peux comprendre que vous ayez trouvé ça extrêmement curieux dans un cours consacré au développement et à l'évolution du système nerveux de me voir vous parler des bactéries. Alors, car s'il y a quelque chose qui n'a pas de système nerveux, on s'accordera bien à dire que ce sont les bactéries qui n'ont pas de système nerveux. Et quant aux plantes, on peut aussi douter de leur système nerveux. Encore que je vous conseille de patienter un petit peu avant de tirer des conclusions trop hâtives qui seraient tirées du sens commun. Ce n'est pas si simple que ça, et je vais y revenir, sinon aujourd'hui, si je n'ai pas le temps, en tout cas certainement lundi prochain. J'espère non pas vous démontrer que les bactéries et les plantes ont un système nerveux, mais vous montrer qu'il peut y avoir chez les bactéries et chez les plantes des voies qui nous amènent vers des organes dont nous pensons que ce sont des organes nerveux, par exemple la vision. Et c'est, ça va être le but de ma, des cours d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Donc, il y a aussi autre chose, c'est que le titre de mon cours, Évolution et développement du système nerveux, est trompeur. C'est le titre que j'ai donné au faiseur d'affichettes assez rapidement, mais en fait, ce que j'aurais dû vous donner comme titre du cours, c'est plutôt Évolution de la pensée, ou Histoire naturelle de la pensée, ce qui peut l'air un petit peu comme ça prétentieux et philosophique, mais en fait, c'est pas parce que c'est philosophique que ce serait prétentieux, mais parce que ce serait moi qui le dis, qui ne suis pas philosophe, parce que ça pourrait paraître prétentieux. Mais en fait, j'ai une définition, j'ai proposé il y a très longtemps déjà, il y a une dizaine d'années, une définition biologique de la pensée qui n'a rien à voir avec d'autres définitions, comme rapport adaptatif que le vivant entretient avec son milieu. Et dans le terme de vivant, j'en mettais évidemment les individus qui, par le biais de leur développement et de leur individuation chez l'adulte, s'adaptent au milieu, plus ou moins bien, mais aussi les espèces qui, elles aussi, s'adaptent au milieu. Et ce terme de pensée comme rapport, évidemment, je l'ai souligné dans plusieurs articles, a un avantage, a plusieurs avantages, qui sont des avantages très importants quand on pense, plutôt quand on réfléchit à ce qu'on entend par là. Le premier avantage, c'est que ça se place dans le cadre d'une théorie de l'évolution. C'est-à-dire que, pour l'instant, et je pense probablement pour toujours, je ne vois aucune théorie en biologie ou aucun phénomène en biologie qui puisse être pensé en dehors d'une théorie de l'évolution. Donc ça, j'aime bien. La deuxième chose que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'un rapport n'est pas une substance. Donc, du coup, la pensée n'est pas déposée quelque part, que sais-je, dans le foie, dans le cœur, peut-être même dans le cerveau, comme aurait dit Gilles Châtelet, comme la confiture dans un pot du genre Bonne Maman, sous la forme... Sous quelle forme ? Eh bien, sous la forme de réseaux de gènes qui sous-tendraient des réseaux de neurones. Donc je pense qu'on ne peut pas accepter ça, du moins ma définition exclut cette possibilité, ce qui ne m'a pas fait que des amis, évidemment, parmi les idéologues du cerveau-machine, hein, du cerveau-machine logique, bien entendu. Pire, si possible, dans cette définition, tous les organismes qui se développent et évoluent pensent, des bactéries à sapiens. Ça veut dire que si la pensée, c'est un rapport adaptatif, dans sa définition biologique, ça veut dire que nous ne pourrons pas dire que les bactéries ne pensent pas, que les plantes ne pensent pas, même si, évidemment, l'extraordinaire cortex que nous avons, et je vous en ai parlé la dernière fois, à propos des mitochondries, justement, nous avons un cortex qui est démesuré par rapport à ce qu'on devrait avoir normalement. Vous voyez que si on se... Je vous rappelle que si on se tenait... au système sensorimoteur et qu'on se met sur la ligne entre les pannes paniscus, troglodytes ou le gorille, on devrait avoir un cerveau de 400 cm3. On en a 900 cm3 de trop. Ça nous coûte très cher, hein, ça nous coûte extraordinairement cher en énergie puisque c'est le cerveau qui consomme la plus grande partie de l'énergie dans notre corps. Nous dépensons 20% d'énergie avec notre cerveau, alors que le cerveau fait 2% du poids. Donc ça a un coût très fort. Et donc, évidemment, ce cerveau enrichit énormément nos rapports adaptatifs avec le milieu. Donc, ce n'est pas pour dire que nous sommes des bactéries. Je veux dire que le principe, quand même, pour moi, vient depuis les premiers éléments vivants, 3 milliards d'années environ, 3,5 milliards d'années, pour autant qu'on puisse dater ces choses-là. Donc, je reviendrai sur ces questions des mitochondries et de la taille du cerveau humain entre le 8 et le 15 décembre, je pense, si j'arrive à tenir le calendrier qui est le mien aujourd'hui. Enfin, jusque-là. Dernier cours étant le 15 décembre. Alors, en attendant, je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui et lundi prochain de la validité de ces propositions en m'attaquant à l'étude de l'évolution de la vision et un sens qui, vous l'admettrez, participe au plus haut degré à notre rapport avec le milieu. C'est-à-dire que la vue est un sens important. Il n'est pas indispensable, mais il est quand même très important. Donc, quand on parle de vision, il faut faire plusieurs séparations. La première séparation, c'est entre la simple sensibilité à la lumière, c'est-à-dire, par exemple, un organelle qui nous permet de sentir qu'il y a de la lumière ou qu'il n'y en a pas, et jusqu'à la présence d'une structure de type œil, ce qui n'est pas forcément la même chose, et puis au-delà d'un système qui relie l'œil à des centres cérébraux supérieurs, à un système nerveux, et qui répond directement, soit par un réflexe, on peut avoir un œil relié à un système de neurones avec une activité réflexe mais sans cerveau, et puis évidemment on peut aussi avoir transmission au niveau supérieur des images, et à ce moment-là on parle vraiment d'un appareil visuel au sens où vous l'entendez communément. Mais il y a toutes ces différentes formes qui existent dans le monde animal, et pas uniquement, vous allez le voir, dans le monde animal bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, ça, c'est les centres cérébraux supérieurs. Une image que j'ai volée à Ramon y Cajal. Vous voyez ici, ils disent, remarquez le côté maussade et insociable du jeune Cajal, et ça n'a pas énormément changé quand il est devenu le vieux Cajal. Mais pour ce qui est du système visuel, aussi la rétine ici, qui va projeter sur le thalamus, c'est encore valable, bien entendu, et puis de là, aller projeter sur les aires corticales V1, en même temps que je projette aussi sur le toit mésencéphalique, donc en fait, et puis évidemment les contrôles moteurs du système oculaire. Donc c'est à peu près ça, en fait, c'est le côté le plus élaboré de la vision. Mais comme je vous le disais, il y a des côtés moins élaborés, et pendant que vous lisez la phrase de Darwin, il faut que vous sachiez que c'est une question, la question de la vision, qui est hautement chargée sur le plan idéologique. Elle est très très chargée parce que il y a une très grande question, c'est est-ce que la vision est d'origine monophylétique ou est-ce qu'elle est d'origine polyphylétique? Alors je pense que vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que monophylétique, ça veut dire qu'il y aurait un œil prototypique qui serait donné naissance à toutes les formes d'yeux qu'on peut voir dans la nature, l'œil des mouches, l'œil des céphalopodes, l'œil des vertébrés. Et l'origine polyphylétique, c'est un truc qui a été défendu énormément par Ernst Mayr en particulier, c'est qu'on a inventé l'œil plusieurs fois, Ernst Mayr disait jusqu'à 65 fois au cours de l'histoire des espèces, et que les formes semblables qu'on peut voir chez un céphalopode ou chez un vertébré, parce qu'on a un œil qui ressemble beaucoup à celui des mollusques, c'est le résultat de ce qu'on a appelé les convergences évolutives, qui de nouveau, à mon avis, procèdent malgré tout de la pensée magique. Donc les arguments en faveur de l'hétérogénéité, c'est-à-dire d'une invention indépendante et répétée du système visuel à travers tous les embranchements, est une difficulté. En fait, cette ressemblance entre les yeux, c'est une des difficultés que Darwin voyait à sa théorie, comme vous pouvez l'avoir lu maintenant que j'ai montré ce petit texte. Ça a été repris par Bergson aussi comme un argument fort pour essayer de d'imaginer qu'il y a quelque chose d'initial qui doit nous emmener vers une diversification des yeux, mais à partir d'un mouvement initial, c'est-à-dire comme si c'était la vision qui allait former l'œil. En fait, il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une hétérogénéité phylogénétique de l'œil, ce qui ont été, et en particulier, si vous voulez, les grandes différences anatomiques entre les yeux. Même si un œil de céphalopode ressemble à un œil humain, ce n'est pas du tout pareil, par exemple un œil de céphalopode procède de l'invagination de l'ectoderme, c'est-à-dire de la partie qui fait la peau, alors que la formation d'un œil de vertébré, c'est une interaction, vous allez voir, entre le système nerveux et la peau qui forme la coupe optique du système nerveux qui va aller induire la formation d'une lentille au niveau de l'ectoderme. Donc c'est en fait très différent. l'œil des mouches avec les omatidies est très différent de l'œil des vertébrés. Et puis, il y a aussi cette question de la position, qui est assez intéressante, qui est de la position des photorécepteurs. Ça, c'est les endroits qui reçoivent la lumière ici au fond de la rétine. Vous voyez que la lumière vient d'ici, donc ils sont à l'opposé de l'arrivée de la lumière, alors que dans beaucoup d'organismes, le photorécepteur est directement en contact des photons qui arrivent, ce qu'on appelle un œil, ça c'est un œil inverse, une structure éverse. Donc, oui, pas mal d'arguments. Et comment est-il possible que tous ces yeux tellement différents aient procédé en fait d'un seul mouvement au départ, c'est-à-dire aient procédé à partir d'un œil de type prototypique. Donc, pour les vertébrés en particulier, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est le système nerveux. Vous voyez ici, c'est un tube nerveux avec l'hydrocéphale. C'est le contact entre la coupe optique et l'ectoderme. Et vous voyez ici la coupe optique qui se forme, qui va induire la formation d'une lentille à partir de l'ectoderme. Donc, c'est vraiment l'œil est nerveux, alors que chez le céphalopode, ce n'est pas d'origine neuronale. Et les démonstrations ont été assez intéressantes. C'est-à-dire que si on coupe cette partie-là, c'est des expériences anciennes qui ont été redessinées par Hamburger. Vous voyez que si on coupe ici, eh bien, on ne forme plus d'œil de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'induit pas de lentille. Et par contre, si on greffe une coupe optique dans le flanc ici d'un crapaud, on voit qu'on va pouvoir induire la formation d'un œil dans le flanc de cet animal. Ça ne marche pas pour toutes les bêtes. Mais ça suggère qu'effectivement, la formation de l'œil, y compris de la partie qui vient de l'ectoderme, nécessite une interaction avec le système nerveux. C'est en tout cas ce qui se passe chez nous. Et ce n'est pas ce qui se passe chez les mollusques. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la similitude des structures finales attribuées au phénomène de convergence évolutive, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, à l'autre bout du spectre, il y a le grand avocat de l'origine monophylétique de l'œil. C'est-à-dire qu'il y a eu un œil prototypique, et vous le connaissez, ce grand avocat, évidemment, c'est Walter Gehring, qui travaille à Bâle, et au Biozentrum. Et il est pour l'origine monophylétique, parce que ce qu'il a pu montrer, c'est qu'il y avait un gène de développement qui s'appelle PAX6, en fait, qui est divisé entre, chez la mouche entre un ILS et un twin of ILS. Je ne rentre pas dans les détails ici. Il a démontré que ce gène, si on le surexprime, j'ai déjà montré les résultats, si on le surexprime dans les antennes, va pouvoir créer un œil dans l'antenne ou un œil sur la patte, ce qui suggère qu'un seul gène, serait nécessaire, ou un seul circuit génétique, mais dans lequel ce gène aura un rôle très important, serait nécessaire pour la formation des yeux. Et il se trouve que tous les yeux que l'on peut connaître pratiquement sont générés par un circuit génétique dans lequel ce gène PAX6 joue un rôle fondamental. Et à partir de là, évidemment, Walter Gehring pense et propose qu'il existe une origine monophylétique des yeux à partir d'un œil prototypique qui est dessiné grâce à ce système de réseau de gènes, mais que par-dessus, évidemment, sont greffées toutes sortes de stratégies pour faire des yeux un petit peu différents, selon, ou même très différents, selon les espèces auxquelles on appartient. Alors là, ce que je vous ai fait, c'est un arbre, il va venir plusieurs fois, parce que c'est un cours sur l'évolution, donc il faut que vous voyez un tout petit peu où nous sommes. J'ai souligné en rouge les bestioles dont je vais parler au cours du cours. Donc, les protozoaires, 3 milliards d'années, 3 milliards et demi. Ici, les hydres, les radiata. Avec les... Donc, je vous montrerai les yeux chez les hydres. Et puis, les planaires et Cenorhabditis elegans, qui sont en fait des êtres à symétrie bilatérale acélomates. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ils sont acélomates. Il n'y a pas de véritable mésoderme constitué, le mésoderme est diffus dans ces bestioles. Et puis ensuite, évidemment, le premier cœlomate, ancêtre des cœlomates, à partir duquel se sont développés d'un côté les arthropodes et de l'autre les vertébrés. Donc dans les arthropodes, on parlera un peu des mollusques. On parlera des mollusques. Les arthropodes sont là, plutôt les mollusques, les annélides, les arthropodes, donc des invertébrés qui nous intéressent. et puis évidemment le roi des invertébrés, ou plutôt la reine qui est la mouche, Drosophila. Et de l'autre côté, les chordés, ici, je ne parlerai pas des oursins, mais chez les chordés, on parlera évidemment d'Amphioxus et de l'Acidie, hein, la Sione, étant ce qu'il y a de plus proche de nous. Hein. Darwin, d'ailleurs, l'avait proposé lui-même, que c'était soit Amphioxus, soit la Sione, notre plus proche cousin, ancêtre, et c'était pas mal vu. Et puis, chez les vertébrés, évidemment, les agnates, comme la lamproie ou la myxine, hein, hagfish, et puis, évidemment, les gnatostomes avec nous autres, là-haut, quoi, sur la forme des mammifères. Donc, ne gardez pas en tête, elle reviendra souvent, c'est juste pour vous indiquer de quoi il est question quand on parle d'évolution. C'est un arbre, hein, donc c'est il y a des partis pris dans les arbres, je l'ai dit la dernière fois. Mais bon, c'est un arbre qui est à peu près viable, si j'ose dire. Donc je vais commencer par les procaryotes, hein, et leur système de photoréception. Donc c'est un système extrêmement simple, qui est extrêmement caractérisé, c'est le meilleur système de récupération de l'énergie solaire. Vous voyez ici que chez ces bactéries, hein, il s'agit là de bactéries, bien entendu, vous avez exprimé à la surface de la bactérie ce qu'on appelle des bactériorhodopsines, c'est-à-dire des protéines qui sont dans la membrane bactérienne et qui ont un aldéhyde de vitamine A, le rétinal, hein, et vous allez voir que c'est exactement comme ça dans nos yeux aussi, bien qu'il s'agisse d'une bactérie, et grâce à ce rétinal qui change de conformation de whole trans, que vous voyez ici, en 13-6, une isomérisation du rétinal, dans l'état excité, je peux entraîner une sécrétion d'un proton par ma bactérie quand je suis allumé par quelques photons, et cela me donne l'énergie nécessaire pour synthétiser de l'ATP. Donc c'est très très simple, mais vous pouvez dire que c'est un système visuel, c'est un organisme, d'une façon, qui est capable de lire les photons, de recevoir des photons, et à partir de la réception de ces photons, de se faire synthétiser l'ATP à partir de ce qu'on appelle la FOF1 ATPase. N'oublions pas, on retrouve ce système chez les bactéries, hein, chez les mitochondries, n'oubliez pas que les bactéries vont nous donner les mitochondries, une fois qu'elles auront fusionné. Et c'est un système qui est extraordinairement important sur le plan de l'écologie. Vous voyez ici, par exemple, vous avez une bactérie qui s'appelle Stigmatella, quelque chose, Aurantica, ou Aurantiaca, je ne sais plus, qui est dans le sol, hein, et si vous illuminez, elles peuvent se rassembler, faire un floating body, et aller envoyer des spores pour investir des sols autres. Là, c'est ce qui se passe pour les macrophages. C'est une Brucella abortis, c'est aussi un pathogène. Et quand vous mettez de la lumière, elle récupère l'énergie nécessaire pour aller envahir les cellules eucaryotes, nos cellules, hein, par exemple ici des macrophages. Et ici, c'est dans la mer, donc ce sont des bactéries qui vivent dans la mer. Et quand elles sont éliminées, se rassemblent et peuvent aller manger les détritus. Donc, ils nous nettoient beaucoup les fonds marins. Donc, vous voyez comme c'est important. Donc, et en fait, l'essentiel de l'énergie vient de réactions de ce type. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont mineures sur le plan de la biosphère. Hein, ce sont des choses extraordinairement importantes. Alors, ce que je voulais... l'analyse aujourd'hui des génomes, hein, de tous les micro-organismes marins, montre, et autres d'ailleurs, montre qu'il y a des bactériorhodopsines dans quasiment toutes les bactéries, y compris les E-bactéries. Hein, c'est à partir de là, à partir de ces gènes, et grâce à ces gènes, que les bactéries produisent l'énergie à partir de la lumière. Donc, laissez-moi quitter les prokaryotes pour arriver maintenant au chapitre des eucaryotes unicellulaires, qui sont en fait des prokaryotes fusionnés, hein, on en a parlé la semaine dernière, et vous montrer comment il y a des similitudes incroyables et extrêmement intéressantes entre les récepteurs à photons des prokaryotes et ceux des eucaryotes unicellulaires et même des métazoaires. Hein. Alors, j'y reviendrai dans un instant, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est l'œil prototypique de Darwin, d'une certaine façon. Eh bien, il existe dans un unicellulaire, qui est en fait un dinoflagellé, et dans cette cellule unique, on arrive à trouver un œil, qui est un véritable œil. Vous voyez ici, il y a des pigments. Hein. Quand il y a un œil, il y a toujours un pigment, parce que la lumière arrive, tombe sur le pigment, et le pigment renvoie les photons vers les cellules photoréceptrices. Donc vous avez ici les pigments, vous avez ici les récepteurs dans ce dinoflagellé. Et donc ici vous avez une lentille, vous avez une cornée, donc vous avez une cellule qui a elle-même développé un œil. Alors c'est plus que ce que Darwin nous proposait, parce que pour Darwin, l'œil prototypique c'est deux cellules. C'est une cellule qui fait des pigments accolée à une cellule qui exprime des photorécepteurs. Et ça, c'est l'œil initial pour Darwin. Et à partir de là, tous les yeux doivent pouvoir se développer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, fondamentalement, tous les photorécepteurs que vous allez rencontrer dans la nature, hein, depuis la bactérie jusqu'à Sapiens, sont construits de cette façon-là. Ce sont des protéines à 7 domaines transmembranaires, avec une partie C-terminale du côté du cytoplasme et une terminale du côté extracellulaire, des protéines qui fixent un rétinal, qui est capable de récupérer l'énergie lumineuse, et fondamentalement, de la bactérie à nous, ça sera toujours le même système. Alors évidemment, au-dessus, autour, ça se construit un petit peu différemment, mais c'est quand même intéressant de savoir que, dans tous les cas, on a des protéines à 7 domaines transmembranaires qui peuvent réguler directement ou indirectement via des interactions avec ce qu'on appelle les protéines G, les flux ioniques transmembranaires et les hyperpolarisations ou les dépolarisations qui sont liées à la transformation de l'énergie lumineuse. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'y reviendrai probablement la semaine prochaine, vous voyez ici un photorécepteur de vertébrés. Ils sont de forme ciliaire, vous verrez pourquoi probablement la semaine prochaine. Donc vous activez votre aldéhyde, hein, et à ce moment-là vous activez votre protéine G, vous hydrolysez l'AMP, le GMP cyclique, et ça entraîne une hyperpolarisation de votre cellule, c'est-à-dire que vous allez avoir la transduction du signal sous forme d'une hyperpolarisation par entrée des ions calcium, sodium et proton. Chez les invertébrés, vous avez le même système. Alors là, ce sont des rhabdomériques ou ciliaires, mais ce sont deux systèmes différents. Mais de nouveau, j'y reviendrai la semaine prochaine, probablement, où vous avez aussi des interactions avec les protéines G. Et puis, là, c'est la phospholipase C qui est activée, formation d'IP3, ouverture des canaux ioniques. Et là, dans ce cas-là, c'est une dépolarisation. Et puis, vous avez aussi des ciliaires chez les invertébrés qui vont entraîner une hyperpolarisation par le passage par les GMP cycliques, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, une grande ressemblance, somme toute, entre tous ces systèmes qui sont des systèmes de transduction du signal lumineux via un changement de conformation, une isomérisation des aldéhydes de la vitamine A. Chez les vertébrés, chez nous, là, en particulier, le rétinal est fixé sur une lysine de façon covalente, c'est une lysine à ce niveau-là. Et contrairement à ce qui se passe alors, chez nous, c'est un truc un petit peu particulier, après le changement de conformation, le rétinal s'en va et est régénéré au niveau de l'épithélium pigmentaire. Chez les bactéries, c'est une régénération sur place, dans le noir, ça rechange de conformation. Alors, c'est sûr que si les eucaryotes sont nés de la fusion endosymbiotique de bactéries et le transfert au noyau de l'information bactérienne, il n'est pas étonnant, d'une certaine façon, que les eucaryotes unicellulaires aient un système proche du système bactérien. Puisque en fait les bactéries sont à l'origine de la formation des eucaryotes. La deuxième étape qui se développera et qui donnera naissance à un système visuel, à un vrai système visuel chez les métazoaires, est plus difficile à penser. Hein. Donc je m'y efforcerai probablement dans 3 semaines quand je vous parlerai de la naissance de la pluricellularité, c'est-à-dire quand toutes ces cellules sont mises ensemble pour faire des organismes multicellulaires. Donc on est en train de construire petit à petit quand même, comme vous le voyez, des métazoaires. Mais ça n'empêche pas qu'on doive encore aujourd'hui, et la question n'est pas résolue, s'interroger sur l'origine des différentes parties du système visuel. Est-ce qu'il dérive des bactéries? Est-ce qu'il dérive des algues vertes? vous allez voir qu'il y a des propositions pour dire que c'est la théorie des poupées russes de Walter Gehring, que au fond, notre système visuel dérive effectivement des bactéries. Alors, c'est l'hypothèse du symbionte qui est fondée sur Chlamydomonas, sur lequel je vais venir, avec l'intuition qui est celle de Gehring et que je trouve très excitante sur le plan intellectuel, que la perception de la lumière remonte aux cyanobactéries qui sont intégrées dans les eucaryotes sous la forme de chloroplastes. Donc la vision viendrait des plantes. C'est un petit peu contre-intuitif, bien entendu, mais ça me paraît justement amusant, parce que c'est contre-intuitif. Et ils ont fait la séquence d'un génome, un génome de Nostoc, qui est une cyanobactérie, et cette séquence révèle la présence d'un gène qui encode une protéorhodopsine. Donc l'œil que je vous ai montré de cette dinoflagellée, cet œil dans une cellule unique, a été découvert en 1965, et puis en 1969, c'était mieux décrit, par quelqu'un qui s'appelle Gruet, et si vous voulez regarder les références, vous pouvez le faire. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un œil dans une cellule, et cet œil a tout ce qu'il faut pour faire un œil normal. Donc, l'hypothèse de la poupée russe suppose que la sensibilité à la lumière, née chez les cyanobactéries, serait passée aux algues rouges sous la forme de chloroplastes primaires, puis vers les dinoflagellés, et de là vers les cnidaires, que je vous ai placés tout à l'heure sur l'arbre évolutif, hein. C'est sûr que cette position sur l'arbre évolutif, les cnidaires, on est là, hein, donc on est encore, on est très loin de nous. Mais il reste que ce sont quand même des métazoaires, et de ce point de vue, nous avons avec eux une parenté réelle. Alors, je vais maintenant vous parler justement de Chlamydomonas. Les Chlamydomonas sont des micro-organismes eucaryotes. Ce sont des algues unicellulaires, ou des gamètes d'algues, en fait, qui sont capables de déterminer d'où vient la lumière et de répondre à cette information par un mouvement. Donc, par un mouvement, parce qu'ils ont des cils, comme vous pouvez voir. Donc, c'est quasiment un petit neurone, quoi. Donc la rhodopsine de ces flagellés unicellulaires est proche des rhodopsines bactériennes. Donc en fait, ça ressemble énormément aux rhodopsines bactériennes. Et elles fonctionnent comme des pompes ioniques. Des pompes ioniques pour les protons, pour le cas des bactériorhodopsines, pour le chlore, en fait, le cas des allorhodopsines. Et la transduction du signal lumineux active une cascade qui allume les moteurs flagellaires, qui fait que cette bête peut se distinguer où elle va. Donc voilà à quoi ça ressemble, en gros, à un œil, entre guillemets, de Chlamydomonas, hein, donc d'une algue. Vous avez les photons qui arrivent et qui sont réfléchis par un pigment, hein, c'est ce qu'on appelle le high spot, j'y viens, et puis donc aller taper sur les récepteurs, activer le rétinal que je n'ai pas dessiné qui est là, et cela va entraîner des entrées ioniques dans votre membrane, une dépolarisation de la membrane, qui, si elle est suffisante, va être sentie au niveau des flagelles, et donc les flagelles vont répondre à cette dépolarisation. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est très nerveux, d'une certaine façon, hein, le neurone unique. Donc, c'est en 1878 que des botanistes de Saint-Pétersbourg, en fait, qui étudiaient la motilité et la phototaxie des algues unicellulaires dans la Neva, ont remarqué que la plupart des espèces contiennent un spot jaune, hein, que je vous ai dessiné ici, en position équatoriale. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux côtés, ce n'est pas symétrique, il n'y en a qu'un œil, qui est en position équatoriale par rapport au corps cellulaire. Et ce spot est sensible à la lumière, il leur a semblé sensible à la lumière, ils l'ont appelé « eye spot hein. ». Donc, c'est seulement au bout de 100 ans après, qu'on s'est rendu compte que ce high spot, oui, fonctionne effectivement comme un appareil de vision, en association avec des protéines qui sont des rhodopsines, et puis les éléments biochimiques qui, en aval, sont capables de transduire cette information en un mouvement. Et je tiens beaucoup à l'idée du mouvement parce que j'y reviens de façon un peu répétée, mais Pour beaucoup de gens, le système nerveux ne se justifie que parce qu'il est capable de transmettre une information en mouvement. Hein. Fuir un prédateur, attraper quelque chose. Les plantes, soi-disant, n'ont pas de système nerveux parce qu'elles ne bougent pas. Donc, toute l'idée du système nerveux est une idée qui nous vient du mouvement. En fait, vous avez ici quelque chose que vous pourriez très bien décrire, si vous avez un petit peu d'imagination, comme un système nerveux unicellulaire. Hein. Après tout, il y a de la dépolarisation, il y a du mouvement, et grâce à ça, la cellule est capable de s'orienter dans l'espace tridimensionnel. Donc, chez les animaux, alors, chez ces bestioles, c'est un hall transrétinal qui est transformé en 13-6. Et on voit ça aussi chez beaucoup de champignons qui ont ce système, chez les archées et chez les eubactéries, comme je vous l'ai dit. Alors, chez les animaux, c'est un petit peu différent. En fait, la liaison covalente est en 11-6. On a un rétinal qui est covalent, c'est en 11-6, et qui, lui, est transformé en hall trans sous l'action de la lumière. Avec ensuite, comme je vous l'ai dit, hydrolyse du GMP cyclique, fermeture du canal ionique et hyperpolarisation de la cellule. Donc en fait, c'est un système qui est toujours ouvert mais qui se ferme quand on l'allume, chez nous, hein, donc, et qui traîne une hyperpolarisation. Alors la deuxième chose, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est que la rhodopsine, ces protéines, se comportent comme des récepteurs qui auraient capturé leur ligand, hein, c'est-à-dire que, et qui l'auraient capturé de façon covalente. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une molécule qui se fixe sur un récepteur et qui modifie l'activité du récepteur, le récepteur a capturé le ligand, et le ligand, lui, capture les photons, et donc reste prisonnier du récepteur. Et de ce point de vue, il y a des idées qui sont venues un petit peu se mêler à ça, en disant que, au fond, ce serait un chémorécepteur, un récepteur sensible à des substances chimiques, qui se fait transformer en photorécepteur. Et une des raisons de penser ça, c'est que l'AMP cyclique, vous avez chez Dictyostelum, j'en parlerai quand je parlerai de la formation des multicellulaires, qui est une amibe sociale, dans la mesure où chaque cellule peut se rassembler pour faire un organisme. Au moment où ils se rassemblent, c'est parce qu'il y en a un qui émet de l'AMP cyclique, et que l'AMP cyclique va se fixer sur des récepteurs AMP cyclique qui sont présents à la surface des autres congénères, et que tout le monde migre vers le producteur, et puis s'organise pour faire de la vraie morphogénèse. Ben, il se trouve que quand on regarde la séquence de ce récepteur AMP cyclique, il ressemble énormément à une rhodopsine. Donc il y a une idée derrière ça, que la vision pourrait avoir succédé à quelque chose qui est d'ordre de la chémoréception. C'est possible que je vous en parle quand je comparerai, par exemple, C. elegans, qui n'a pas d'yeux, mais qui a un nez, à d'autres organismes qui ont un nez et des yeux. Donc on verra ça peut-être un peu plus tard. Donc une autre différence entre les bactéries, hein, et les algues unicellulaires, d'une part, et les métazoaires de l'autre, je dis, c'est que le rétinal qui est fixé dans les deux cas par une base de Schiff, c'est la même chose. Et dans un premier cas, il est régénéré sur place, donc la nuit, ça se régénère, mais chez nous, je veux dire, chez les métazoaires, ça se détache, ça va dans ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire rétinien, et c'est régénéré au niveau de l'épithélium pigmentaire. Donc c'est un processus qui est un petit peu différent. Donc comme je vous l'ai dit, les algues unicellulaires, les flagellés, s'orientent dans la lumière en utilisant deux mouvements, qui est un mouvement de phototaxie positive et un mouvement de phototaxie négative, alors qu'on appelle la photophobie. Donc, ces deux photomobilités, positives et négatives, sont médiées par les mêmes récepteurs, hein, qui contiennent du rétinal, qui sont tous, évidemment, au niveau du high spot. Donc, je vais encore faire un petit détour. Là, c'est vrai que pour Darwin, on a l'œil prototypique, le voilà. Hein. Donc, ici, c'est les bactéries, hein. Ici interviendrait PAC6 dans la formation de l'œil prototypique, c'est-à-dire une cellule pigmentaire et une cellule photoréceptrice, et puis de là deviendraient tous les yeux. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le type de schéma qui est le schéma de ce qu'on appelle l'origine monophylétique de l'œil. Hein. Donc là, il faut deux cellules. Dans le cas de nos algues, comme vous avez pu voir, Alors, ça, ça a été découvert, hein, des animaux qui ont juste deux cellules pour faire un œil. C'était découvert en 1897, il y a un type qui s'appelle Hess qui a découvert ça dans les larves de plein air. Lui, il a fallu trois photorécepteurs et une cellule pigmentaire pour faire un œil. Mais plus récemment, je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est cité par Gehring, il cite un type qui s'appelle Kiyosaku Agata. Il semblerait qu'il ait trouvé dans une larve de plein air japonaise un œil formé juste d'un photorécepteur et d'une cellule pigmentaire. Donc vraiment un œil qui correspond tout à fait à l'œil prototypique. Dans notre cas, nous, c'est encore mieux, hein, parce qu'on a les deux dans la même cellule, on n'a pas besoin de deux cellules, on a une cellule qui a à la fois les pigments, hein, et puis le photorécepteur au niveau de la même structure qui est la RISPOC. Donc, comme je l'ai dit, la stimulation photonique de cet œil conduit à la dépolarisation de la membrane, je vous ai montré ça, et l'activation des canaux calciques voltage dépendants, je vous ai montré ça, et puis évidemment le mouvement. Donc ce mouvement, à quoi est-il dû? C'est-à-dire qu'ont été clonés un certain nombre de récepteurs, il y en a deux en fait, hein. Il y en a un qui s'appelle RA, qui est une rhodopsina, et puis ici, Chlamydobonias B, c'est-à-dire qu'il y a deux gènes en fait, et ils ne répondent pas de la même façon. En fait, si vous immunez très fortement, vous allez activer celui-là, vous allez avoir un courant extrêmement rapide, ça va se traduire dans une membrane, une dépression de la membrane, mais très forte, avec un signal stop. En fait, si c'est trop lumineux, la bestiole s'arrête. Mais vous avez aussi un autre récepteur qui va être plus sensible à des signaux plus faibles, et dans ce cas-là, vous allez avoir une réponse asymétrique de votre flagelle et une orientation en direction de cette lumière tamisée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, les chlamydomonas sortent le soir.
De nouveau, c'est intéressant parce que ça montre que ces petites bêtes sont plus compliquées qu'on ne le voudrait. C'est-à-dire que c'est asymétrique. Hein. Donc, pourquoi est-ce que je vais dans un sens et pas dans l'autre quand je suis attrapé? Donc voilà ici ce que je peux vous proposer. Vous avez deux flagelles, n'est-ce pas? Vous avez deux flagelles, mais il y a toujours un flagelle qui est près du high spot. C'est-à-dire que les deux flagelles ne sont pas égaux. Il y en a un qui est près de la stimulation lumineuse et l'autre qui est en transe, position transe par rapport au high spot. Et ces flagelles, le flagelle en 6, qui est celui-là, le flagelle en transe, en fait ne répondent pas de la même façon aux signaux lumineux. Et en particulier, il y en a un qui peut être inhibé et l'autre qui peut être activé en fonction de protéines qui sont disposées aussi de façon un petit peu différente à la base de vos flagelles. Donc si j'illumine, mon animal avec une lumière qui n'est pas trop violente, bien entendu, vous avez vu, je peux pas sinon je l'aveugle quoi, d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe? C'est que on peut évidemment éliminer chacune de ces protéines par des techniques de génétique, par ce qu'on appelle l'ARN interférentiel. Donc on peut voir la fonction de chacune de ces protéines. Et ce que vous pourrez voir, c'est que quand on fait ça, eh bien ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que si je mets de la lumière de ce côté-là, c'est ce flagelle-là qui va être activé de façon la plus forte, c'est-à-dire que vous voyez, il va taper beaucoup, il va avoir un mouvement de beaucoup plus grande ampleur, ce qui va me faire tourner mon animal, bon, c'est pas un animal, c'est plutôt une plante, hein, en l'occurrence, du côté de la lumière. Et après qu'il ait évidemment tourné, eh bien, l'eye spot ayant changé de position, il pourra, quand il sera en position de la lumière, diriger directement vers la lumière, c'est-à-dire qu'il y aura une symétrie. Que l'eye spot va être caché de la lumière une fois que la plante aura tourné. Donc je peux avoir, avec selon la force de la lumière et le type de canal que je vais activer, avoir une position qui va être une position de type répulsive ou une position de type attractive en jouant, hein, sur un cil ou sur l'autre. C'est-à-dire que les deux cils ne sont pas équivalents. Donc c'est déjà assez sophistiqué, vous voyez que la polarité de cette cellule va être importante dans la décision que cette cellule va prendre dans le champ lumineux d'une certaine façon. Hein. C'est, Il y a une part d'adaptation là-dedans, bien entendu, hein, parce que s'il y a trop de lumière, c'est-à-dire que ces bestioles sont capables de voir une ombre qui passe, par exemple. Hein. Une ombre, ça peut toujours être un prédateur, par exemple. Ça peut être, donc, il y a une part d'adaptation dans la façon dont les algues sont capables de répondre aux signaux lumineux. Donc, alors, je voudrais terminer ce cours d'aujourd'hui en vous parlant d'une histoire qui est une histoire... parce que les flagelles, c'est bien gentil pour nager, pour s'orienter, si vous voulez, mais ça a aussi des fonctions nettement plus ludiques. Je voudrais vous entretenir avant d'arrêter le cours. Donc, cette fonction plus ludique, c'est le sexe. Bien que ce soit des plantes, bien que ce soit des algues unicellulaires, vous allez voir, ce n'est pas triste la façon dont ça se passe, la sexualité chez les algues. Je ne dirais pas que c'est mieux que chez nous, mais ça dépend pour qui. Mais en l'occurrence, c'est assez violent. Donc, d'ailleurs, le type qui a écrit cet article, Panne Snell, que le sexe chez les algues vertes unicellulaires est une affaire tumultueuse. Effectivement, c'est une affaire très tumultueuse, vous allez le voir. Donc, ce que vous avez, c'est vos gamètes, ici. Si vous retirez la nourriture, elles se mettent à proliférer de cette façon, à s'assembler en mating type moins et en mating type plus. Alors, je ne sais pas quel est le mâle et la femelle. Avec le moins et le plus, je me garderais bien d'engager sur ce terrain. Mais tout d'un coup, toutes ces bestioles se rassemblent. Hein, elles ont une coque, normalement. Elles ont une coque. Elles se rassemblent et elles retirent leur coque. C'est-à-dire qu'elles se déshabillent. Quoi, hein. Et là, il se passe un tas de trucs jusqu'à ce que... vous voyez, j'ai retiré les coques là, parce que là, ça aurait été quand même trop exagéré. Donc, à ce niveau-là, les deux bestioles se retrouvent l'une en face de l'autre. Et il y a une fécondation. Elles se tiennent par les flagelles pour ne pas se perdre. Donc, les flagelles ne servent pas uniquement à trouver de la lumière, mais aussi à maintenir le partenaire sexuel. Et elles fusionnent. Elles fusionnent. Après avoir fusionné, elles refont une coque et elles s'endorment. Tout ça, finalement, est d'un banal incroyable. Et elles s'endorment jusqu'à ce qu'on leur redonne de la nourriture. C'est-à-dire que si on leur redonne de la nourriture, elles se remettent à se diviser. Elles vont en méiose. Donc, elles vont faire de nouveau des mating négatifs, des mating types positifs, pour repasser le cycle. Donc, ce sont quand même des... Ce que j'essaie de vous mettre dans la tête, d'une certaine façon, c'est que bien que ce soit des algues, hein, et bien que ce soit des êtres unicellulaires, elles ont des comportements à la fois vis-à-vis du milieu, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis du mouvement, vis-à-vis de la perception de la lumière, qui sont quand même tout à fait étonnants par rapport à l'idée que nous, on se fait d'une algue, surtout unicellulaire, même pluricellulaire, je veux dire qu'on n'est pas très, très... Voilà. Donc, Chlamydomonas, je suis sûr que vous trouvez que Chlamydomonas est beaucoup plus intéressant à la fin du cours qu'au début. Hein, quand même, voilà. Donc, tout ça se fait en laboratoire. Hein. C'est-à-dire qu'en laboratoire, vous pouvez retirer le nitrogène, l'azote de votre milieu et vous créez ça. Alors, il se passe beaucoup de choses dans la bestiole quand on fait ça, et en particulier une histoire d'une homéoprotéine, mais c'est peut-être un tout petit peu compliqué. Je n'ai pas tout à fait terminé avec les algues, parce que je voudrais maintenant remonter de l'algue à l'œil. Parce que dans l'œil, c'est ça, notre œil. Hein. Donc ça, c'est un dessin que j'ai tiré de nouveau de Ramón y Cajal. Vous voyez ici que vous avez un microscope avec lequel il a réussi à déterminer la structure de la rétine. Bon, ce n'est pas moderne, mais ça marchait bien. Hein. Donc vous voyez ici les cônes, les bâtonnets. Ici, vous avez les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires qui vont aller remonter l'information visuelle jusqu'au cerveau. Alors, il existe des maladies dans lesquelles vous perdez vos photorécepteurs. La rétinite pigmentaire en particulier est une maladie où on perd les photorécepteurs. Donc on devient aveugle. Et les stratégies pour vaincre ça, il y en a deux, c'est bien essayer de les perdre le moins vite possible. Hein. Bon, évidemment, c'est une possibilité. L'autre stratégie, c'est de faire des greffes. Ou, ça on en parlera le 15 décembre si j'y arrive, de mettre des microchips type ordinateur à la place des photorécepteurs pour avoir des appareils de type informatique, enfin des chips quoi, qui récupèrent la lumière, qui récupèrent les photons, qui peuvent envoyer l'information depuis ici jusqu'ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière va aller stimuler ici les photorécepteurs, et qu'ensuite l'information redescend jusqu'à la surface de la cellule ganglionnaire, qui va ensuite remonter l'information jusqu'au cerveau. Rappelez-vous les premiers dessins de Ramón y Cajal. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces algues, finalement, ne sont pas si inintéressantes que ça, même d'un point de vue de réparer un œil humain. Hein. Donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de prendre des rhodopsines de Chlamydomonas, donc ces petites algues qui se promènent, et vous savez qu'elles ont exprimé ces rhodopsines dans les neurones ganglionnaires d'un modèle de souris qui est un modèle de rétinite pigmentaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus, qui s'appelle RD1-, qui n'a plus de photorécepteurs. Plus de cônes, plus de bâtonnets, la souris est aveugle. Et donc, ils ont pris un adénovirus qui permet d'infecter des neurones ganglionnaires. Ils ont mis dedans le gène de la rhodopsine de Chlamydomonas. Et puis, ils l'ont accroché à une protéine fluorescente, la GFP. Vous avez tous entendu parler de la GFP, puisqu'il y a eu 3 prix Nobel attribués à la GFP, en gros, récemment. Et comme ça, on peut voir où est la protéine. Et quand on fait ça, évidemment, on peut toujours stimuler le photorécepteur. Et quand on stimule le photorécepteur, eh bien, on peut le faire à 460 nanomètres. Hein. Parce que, évidemment, les algues, elles voient à 460 nanomètres, elles ne voient pas à une autre, par exemple, à 580. Donc, c'est un peu limité comme système. Mais si vous faites ça à une souris vivante dans un modèle de dégénérescence des photorécepteurs, et que vous regardez ce qui se passe quand vous illuminez à 460 nanomètres votre œil de souris, et vous regardez au niveau du cortex, maintenant la simulation visuelle, vous voyez, voilà la réponse du cortex chez le mutant, voici la réponse du cortex chez la souris sauvage, et voici la réponse du cortex chez la souris mutante réparée avec une protéine d'algue verte unicellulaire. Donc, évidemment, on ne va pas voir dans l'ultraviolet, mais il reste que c'est assez frappant de montrer que une molécule qui a été prise chez une algue peut réparer un œil de souris, et évidemment, réparer, moyennant, mais restituer une certaine sensibilité à la lumière à un œil de souris, voire évidemment à un œil humain, mais la manip n'a pas été faite. Ce qui a été fait, c'est une autre manip, parce que j'y viendrai la semaine prochaine, mais les neurones ganglionnaires, chez nous, sont en fait d'anciens photorécepteurs qui se sont transformés en cellules ganglionnaires. Et ils ont une rhodopsine qui est particulière, qu'on appelle la mélanopsine. Et donc, pas tous, mais vous avez encore environ, disons, sur 1 million de neurones ganglionnaires chez une souris, vous en avez 500 par rétine qui expriment cette mélanopsine, hein, qui est une opsine qu'on retrouve dans la glande pinéale. Hein. La semaine prochaine, nous parlerons de la glande pinéale. Eh bien, vous pouvez augmenter la quantité de mélanopsine, toujours avec le même truc, vous prenez un adénovirus, vous mettez un gène, vous mettez un adénovirus dans l'œil, ça affecte l'œil, et puis voilà. Et donc, vous pouvez augmenter d'un facteur 10 le nombre de cellules de la rétine qui va répondre à des stimulations qui sont maintenant d'un type un petit peu différente, c'est plus 560 nanomètres, mais c'est plus large. Le défaut de la mélanopsine, c'est que c'est pas rapide, voilà. Ça va dépolariser, il va falloir quelques secondes, et ça va repolariser, il faudra quelques secondes. Donc c'est un système qui est un peu lent. Mais quand vous faites ça, et vous regardez par exemple le réflexe pupillaire chez votre... vous voyez, vous mettez un grand flash dans l'œil, vous fermez l'œil. Vous avez un réflexe pupillaire, vous avez votre pupille qui se rétrécit. Donc chez un wild type, on a une réponse en fonction de la lumière, on a une réponse quand on regarde le pourcentage de constriction de la pupille. Vous voyez que vous avez une réponse très forte. Chez la souris qui a été mutée, c'est-à-dire qu'il n'a plus de photorécepteur, vous voyez qu'il faut aller taper très très fort pour avoir une réponse, et ça c'est probablement lié au fait qu'il reste quelques récepteurs qui sont capables de sentir la lumière dans des cellules qui ne sont pas des photorécepteurs. Ce sont des neurones ganglionnaires qui sentent la lumière, enfin qui la sentent, hein, qui la perçoivent. Et si vous mettez maintenant ce récepteur dans ces cellules, vous voyez que vous allez récupérer une réponse de type sauvage. Et vous savez, les souris n'aiment pas la lumière, donc vous pouvez voir que même dans un comportement, eh bien, vous allez faire que vos souris, qui, quand elles sont mutées, se fichent complètement de la jour ou de la nuit, puisqu'elles vont à 50% dans n'importe quel des comportements, eh bien, si vous leur avez réintroduit ces récepteurs, ils sont maintenant capables d'éviter le compartiment lumineux pour aller dans le compartiment noir. Donc, c'est assez rigolo. Là, c'est évidemment avec une protéine au fond de souris, encore que c'est une protéine très ancienne. Hein, c'est des protéines qui sont impliquées dans des... Parce qu'on ne voit... Comme j'ai dit, il y a la sensibilité à la lumière, il y a la vision, ce sont deux choses différentes. Donc, vous avez des récepteurs de sensibilité à la lumière dans le cerveau profond, dans la glande pinéale, dans les testicules. Ce sont des organes qui sentent, si vous voulez, les rythmes diurnes, nocturnes, mais qui ne transmettent pas cette information sous forme d'image, bien entendu. Il reste que vous pouvez utiliser ces récepteurs de la même façon que vous utilisez les récepteurs de chlamydia pour essayer de réparer vos bestioles. Voilà. Donc j'en ai fini là pour aujourd'hui, et si vous voulez, je suis prêt à répondre aux questions si j'en suis capable, bien entendu.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.